Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Élection au Togo, les Togolais votent demain samedi pour élire leur président. Le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, qui brigue un quatrième mandat, aura face à lui 6 candidats de l'opposition. 3 600 000 électeurs sont concernés par ce scrutin. La campagne électorale s'est terminée hier sans grande passion. C'est les 7 800 000 Togolais. Tension entre le Rwanda et l'Ouganda. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni se rencontrent aujourd'hui à la frontière entre leurs pays pour tenter de résoudre le conflit qui les oppose. Les détails avec Eddy Sango.
C'est à Katuna, localité entre les deux pays, que les Rwandais Paul Kagame et son voisin ougandais Yoweri Museveni vont essayer d'enterrer la hache de guerre. La rencontre se tiendra sous la médiation de leur homologue congolais Félix Tshisekedi et du président angolais João Lourenço. Elle sera la quatrième du genre. Museveni et Kagame s'étaient déjà rencontrés le 21 août dernier à Luanda, en Angola. Ils avaient promis de régler leurs différends et échanger des prisonniers, ce qui a été fait jusque mardi. La tension entre les deux voisins s'était attisée l'année dernière. Kigali et Kampala s'accusaient mutuellement d'espionnage et de soutenir des rebelles. M. Kagame avait récemment proféré des menaces à peine voilées contre son ancien allié. Leur rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un nouvel effort pour faire baisser la tension.
Toujours concernant la recherche de la paix en Afrique, au Mali, le déploiement des bataillons de l'armée reconstituée continue. Après 400 hommes à Kidal, 300 sont arrivés à Tombouctou cette semaine. Ces unités militaires ont les mêmes missions de sécurité que les FAMA, les forces armées maliennes. Elles doivent sécuriser les personnes et leurs biens et faciliter le retour des services sociaux de base dans toutes les régions du nord du Mali. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Camp 1 de Kidal, au camp général Ablaye Soumaré, le jeudi 13 février 2020, c'est l'arrivée du bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Commandant Mamadou Keïta, chef de l'armée reconstituée à Kidal.
Le camp général Soumaré, c'est vraiment, nous sommes combien. C'est souvent, nous manquons depuis longtemps. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes bienvenus chez nous, nous sommes très contents. Nous venons pour préparer le retour de l'administration malienne. Donc, c'est là sous-entendu que nous avons assuré la sécurité. Qui parle de profession, de personnes et de biens, ne peut pas parler de campement, puisqu'on ne peut pas faire ce travail et pas campement.
Ces ex-rebelles et combattants ne pouvaient pas rester en marge parce qu'ils peuvent constituer des menaces pour le pays.
Cette armée reconstituée intègre des gens qui ont pris les armes contre leurs frères, qui ont tué des Maliens et ils sont récompensés aujourd'hui au sein de l'armée avec des grades. Une armée reconstituée pour le nord seulement, mais pourquoi le faire pour seulement le nord? Surtout, on a affaire à des séparatistes. Et c'est une manière de préparer une armée pour pouvoir contrôler l'espace Azawad, comme ils le disent. Il y a des inquiétudes. C'est pourquoi je suis contre.
Alousseni Touré, éditorialiste.
Moi, c'est l'appellation qui me dérange. Sinon, moi, l'esprit, je suis pour ça. Quand on dit armée reconstituée, alors que nous avons une armée. C'est suite à un accord qui est là. Après l'accord, c'est qu'ils étaient un moment contre la République. Ils ont accepté de rentrer dans la République. Et à part l'appellation, je ne suis pas contre l'esprit que de fait qu'ils sont revenus et de fait qu'ils acceptent de rentrer dans la République avec les couleurs nationales. Donc moi, je trouve que c'est une très belle chose.
Déjà, l'armée reconstituée de Kidal a le soutien de la population, des notables et des élites. C'est ainsi que le député de Abeibara, dans la région de Kidal, a offert un taureau au bataillon de Kidal, Amada Agbibi.
Kidal, c'est une région malienne et restera malienne. Aujourd'hui, votre présence marque un grand pas vers l'histoire de notre pays. Toutes les populations de Kidal sont contents quand ils ont entendu votre arrivée, ils sont là, sont avec vous et tous les élus, le notable, tout le monde. Au nom des députés de quatre cercles de Kidal, je suis venu présenter leurs sollicitations qu'ils seront là après. L'armée malienne doit être partout sur le territoire malien. L'accord d'Alger, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. L'armée fait la garantie de cette réconciliation.
Après le déploiement des bataillons de Kidal et Tombouctou, les régions de Gao, Menaka et Taoudeni attendent leur armée reconstituée afin de faciliter les retours des services sociaux de base et les symboles de l'État dans la région nord du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Conflit en Libye, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a assuré aujourd'hui qu'il s'opposerait militairement aux envahisseurs turcs si les pourparlers interlibyens visant à établir un cessez-le-feu durable échouent. La Turquie soutient le gouvernement de Fayez al-Sarraj à Tripoli, avec lequel elle a signé en novembre 2019 des accords de coopération militaire, sécuritaire et maritime. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu jeudi à Istanbul avec Fayez al-Sarraj. La Turquie a assuré que ses engagements en Libye sont liés à un cessez-le-feu. Nathalie Barge.
Le gouvernement de Tripoli a mis fin à sa participation pour parler cette semaine après des tirs de roquettes sur un port de la capitale, mais est retourné à la table des négociations hier à Genève. Si le cessez-le-feu n'est pas maintenu, le transfert vers un processus politique est très difficile, a déclaré hier le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Un cessez-le-feu a été conclu en janvier sous les auspices de la Russie, soutien du maréchal Haftar et de la Turquie, alliée de Fayez al-Sarraj. Lors d'un sommet à Berlin en janvier, plusieurs pays dont la Russie, la Turquie, la France et l'Égypte ont convenu de mettre fin aux ingérences étrangères en Libye et de respecter un embargo sur les armes décrété par l'ONU.
Conflit en Afghanistan, les États-Unis se préparent à signer un accord avec les talibans afghans à l'issue d'une période de réduction des violences en Afghanistan. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Une fois la réduction de la violence mise en œuvre avec succès, la signature de l'accord entre les États-Unis et les talibans devrait aller de l'avant, a souligné le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué publié après sa visite en Arabie Saoudite. Les talibans afghans, pour leur part, sont pleinement engagés à respecter les termes d'un accord, le cas échéant. C'est Sirajuddin Haqqani, numéro 2 des talibans, qui l'affirme dans une tribune parue dans le New York Times. Abdourahmane Dia.
Ce que les talibans veulent est le titre d'un article inédit paru dans le New York Times. Sirajuddin Haqqani, à la tête du réseau Haqqani, la branche la plus sanglante des insurgés afghans, écrit: nous sommes sur le point de signer un accord avec les États-Unis et nous sommes pleinement engagés à en appliquer toutes les dispositions dans la lettre et l'esprit. Le texte est écrit en anglais alors que son dernier message audio, qui remonte à 2017, était en langue pashtoune. Washington devrait commencer à retirer ses troupes d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires. M. Haqqani s'est montré rassurant quant à leur volonté d'empêcher des groupes extrémistes de trouver refuge en Afghanistan, une autre clause du futur accord de paix. Les talibans ont toujours refusé de prendre langue avec les autorités afghanes, qualifiées de marionnettes, mais M. Haqqani s'est montré plutôt optimiste. Il affirme qu'ils sont engagés à travailler avec les autres partis dans un esprit de respect sincère afin de trouver un nouveau système politique inclusif. D'après un haut responsable afghan, la signature pourrait intervenir le 29 février à Doha après une année de négociations entre les États-Unis et les talibans.
Actualité américaine toujours, Roger Stone, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, a été condamné hier à 3 ans et 4 mois de prison. Son procès a déclenché une polémique à Washington en raison des accusations d'intervention du président Trump dans le dossier. Les précisions avec Jacques Aristide.
Le département américain de la justice avait déjugé ses procureurs qui avaient initialement requis entre 7 et 9 ans contre Roger Stone, reconnu coupable en novembre dernier d'avoir menti au Congrès. Ce département s'est toutefois défendu d'avoir agi sur instruction de la Maison-Blanche. Ces recommandations d'une sentence comprise entre 3 et 4 ans ont été suivies par la juge fédérale Amy Jackson. Après le prononcé de peine, elle a déclaré que Roger Stone n'avait pas a été poursuivi pour avoir défendu le président, mais pour l'avoir couvert, dit-elle, tout en se félicitant que la vérité existe et importe toujours. À Las Vegas hier, le président Trump a indiqué que Roger Stone a de bonnes chances d'être innocenté, sans confirmer s'il utiliserait son droit de grâce pour réhabiliter son ancien conseiller. Le chef de l'exécutif américain avait déjà dénoncé une erreur judiciaire, mais laissé planer le doute quant à une amnistie présidentielle pour ce consultant de 67 ans, connu pour son style flamboyant et son tatouage de Richard Nixon dans le dos.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.